Aujourd'hui donc, nous recevons Patrick Chacun. Patrick Chacun est né le 16 décembre 1944. Il est ancien élève de l'ENS de Saint-Cloud, agrégé de sciences physiques et doctoresse sciences. Il est actuellement professeur à l'université Pierre et Marie Curie, chercheur au laboratoire de chimie théorique, UMR 7616, qui dépend de l'université Pierre et Curie et du CNRS. Ses travaux ont d'abord porté sur la photochimie de molécules organiques, puis se sont orientés vers la chimie quantique. Et actuellement, Patrick Chacun travaille sur l'étude théorique de la structure et de la réactivité moléculaire. En dehors de nombreux articles spécialisés qu'il a publiés dans des revues consacrées à la chimie, il a également publié un cours de chimie générale aux éditions Ellipse en 1996 et un manuel de chimie théorique aux éditions Ellipse cette année.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant de commencer, j'aimerais remercier l'Université de tous les savoirs de son invitation, ainsi que tous ses collaborateurs pour leur efficacité et leur disponibilité. Lorsque cette conférence m'a été proposée, comme Jean-Marie Laine, que vous avez peut-être, certains d'entre vous ont pu voir vendredi, j'ai eu un mouvement de recul en voyant la date, 22 août, et j'ai pensé... Pourquoi tant de haine envers la chimie ? Certes, depuis Auguste Comte, la chimie a été habituée à être plutôt mal classée dans le panthéon des sciences, mais elle avait perdu pour le moins 2 ou 3 places. Mais enfin, ce mouvement a été vite surmonté, et je me suis aperçu que, rapidement que quand on aime les sciences, il est impossible de refuser une proposition pareille. D'autant plus que ce genre d'initiative est peut-être l'une de celles qui permettront à l'année 2000, d'éviter de rester définitivement l'année débile. Alors, une part essentielle du travail de recherche en chimie moléculaire est évidemment de produire des molécules nouvelles. Ces molécules pourront se retrouver dans des médicaments, pourront servir à fabriquer des matériaux et pourront se retrouver dans des cosmétiques, dans des aliments. Et il est évidemment aussi important de pouvoir les caractériser et les décrire avec le plus de précision possible. Par ailleurs, notre désir de savoir nous amène à chercher la nature des molécules de notre environnement, que ce soit l'environnement proche ou l'environnement lointain jusqu'aux confins de l'univers. Enfin, nous avons besoin d'identifier et de détecter des molécules qui peuvent être des poisons, des polluants, des substances illicites, des drogues, des dopants, etc. Le problème de la localisation se pose avec peu d'acuité dans la pratique habituelle du chimiste en laboratoire, quand il peut disposer librement de l'échantillon et de le manipuler. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, la molécule est là. Mais nous verrons qu'il est également possible de détecter et d'identifier des molécules dans des endroits qui nous sont totalement inaccessibles, comme les atmosphères de planètes ou même l'espace interstellaire. Alors, qu'est-ce que c'est que identifier une molécule ? Identifier une molécule, c'est d'abord déterminer la nature et le nombre des atomes qui la constituent, c'est-à-dire sa formule brute, et éventuellement la position relative de ces atomes dans la molécule. Dans le cas de l'ozone, il se trouve que la formule brute suffit, il n'existe qu'une molécule de formule brute O3, c'est l'ozone, dont la structure est représentée ici, mais il existe plusieurs dizaines de molécules connues ou imaginables de formule brute C4H8O2. Il suffit cependant de se donner la formule qu'on appelle semi-développée plane indiquant l'enchaînement des atomes pour définir sans ambiguïté l'acétate d'éthyle qui est un solvant à odeur caractéristique présent notamment dans le dissolvant de vernis à ongles. Le problème peut être un peu plus complexe dans d'autres cas. Par exemple, la moins carbone n'est pas définie totalement par sa formule développée plane. Si on regarde en effet la disposition des atomes dans l'espace, ce qu'on appelle la stéréochimie de la molécule, on constate qu'il existe en rouge, alors on ne voit pas bien, mais enfin il est rouge celui-là, un carbone qui est un carbone asymétriques. Et si on permute les groupements bleu et vert, on va obtenir une molécule qui n'est pas la moins carbone qui sent la menthe verte, mais la plus carbone qui sent la graine, de fenouil et le cumin, paraît-il. Lorsque on est en présence d'une molécule qu'on désire identifier, on peut supposer que la molécule a déjà été obtenue par le passé par un chimiste et qu'elle a déjà été donc identifiée. Donc un travail peut consister pour l'identifier à rechercher dans les archives de la chimie, dans des banques de données, s'il existe une molécule de propriété exactement identique à la molécule qu'on cherche à identifier. Ce travail, cette démarche s'apparente à celle de l'enquêteur qui va chercher dans un fichier de police des empreintes digitales identiques à celles trouvées sur le lieu d'un crime. Ce travail, dans la police comme dans la chimie, peut être automatisé. Alors, s'il échoue, c'est-à-dire si on est en présence d'une molécule vraiment nouvelle, à ce moment-là, il va falloir reconstituer sa structure en assemblant, comme les pièces d'un puzzle, des informations fragmentaires qui sont fournies par les méthodes d'investigation dont on dispose. Ces méthodes ont considérablement évolué depuis quelques dizaines d'années. Je vais vous montrer ceci en vous présentant un extrait d'un journal de chimie. Bon, vous ne voyez pas le texte, ça n'a pas d'importance, qui est le bulletin de la Société chimique de France de l'année 1897. Dans cette publication, une molécule nouvelle est présentée, la phényl-isindazole, est donc caractérisée. On peut voir que la plupart des méthodes de caractérisation consistent en des tests chimiques qui sont surlignés en bleu. On ne voit pas le bleu, là, il ne passe pas. Mais enfin, il y a des tests chimiques surlignés en bleu qui sont donc, quand ils sont positifs, censés donner des résultats visibles, des couleurs. Il y a beaucoup de notations de couleurs qui sont surlignées en violet. Et ils peuvent donner aussi des précipités. Donc on décrit la texture des précipités, des aiguilles, etc., des liquides dont on précise s'ils sont visqueux, etc. Et éventuellement, on trouve fréquemment des notations d'odeur. Si on regarde donc un siècle plus tard, dans la même revue, bulletin de la Société chimique de France, d'abord, c'est en anglais, mais enfin, c'est pas l'essentiel. Une molécule nouvelle, là-haut, dont le titre occupe trois lignes, est caractérisée de cette façon-là, c'est-à-dire des séries de chiffres, chaque série de chiffres étant précédée d'un sigle. Ces séries de chiffres traduisent ce qu'on appelle un spectre, et le sigle qu'il précède désigne une méthode spectroscopique. C'est de ces méthodes spectroscopiques que je vais vous parler. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un spectre ? Un spectre, c'est un dessin, un diagramme, qui traduit la réponse d'une molécule à une excitation. Cette excitation impliquant un échange d'énergie entre la molécule et le milieu extérieur. Donc, après l'excitation, la molécule fournit une réponse, et ce diagramme est construit en portant en ordonnée la réponse de la molécule, et en abscisse, un paramètre qui peut être un paramètre caractéristique de l'excitation, mais pas forcément. Les principales méthodes utilisées en chimie moléculaire et dont je vais vous parler sont les suivantes. On a la méthode spectroscopique dans le domaine ultraviolet visible ou spectroscopie électronique, la spectroscopie dans le domaine infrarouge ou spectroscopie de vibration, la spectroscopie dont je parlerai très brièvement dans le domaine des micro-ondes ou de rotation. Ensuite, je développerai davantage la résonance magnétique nucléaire. Ces quatre premières méthodes ont en commun de faire intervenir l'interaction de la molécule avec une onde électromagnétique. Ensuite, j'évoquerai une dernière méthode qui est la spectrométrie de masse. Donc, Pour ce qui est du premier groupe de méthodes qui font intervenir une onde électromagnétique, je vais rappeler rapidement qu'une onde électromagnétique, c'est constituée par la variation périodique d'un champ électrique accompagnée de façon indissoluble d'un champ magnétique. Une radiation électromagnétique est caractérisée entre autres par une longueur d'onde, lambda, ou de façon équivalente par une fréquence nu, ces deux grandeurs variant en sens inverse l'une de l'autre, étant reliées par la relation lambda égale c sur nu, où c est la vitesse de la lumière, et d'ailleurs la vitesse de propagation de toutes les ondes électromagnétiques. Le domaine qui nous est le plus familier de ces ondes électromagnétiques est évidemment le domaine de la lumière visible, qui constitue avec l'ultraviolet un des domaines d'étude de la spectroscopie moléculaire. Donc ce domaine concerne la lumière de longueur d'onde qui va de 800 nanomètres à 400 nanomètres pour le visible et jusqu'à 200 nanomètres pour l'UV. Ensuite, on trouve le domaine de l'infrarouge, dont les longueurs d'onde sont de l'ordre du micron, du micromètre. Ensuite, on rencontre le domaine des ondes de micro-ondes, c'est les ondes du four, dont la longueur d'onde est de l'ordre du centimètre, puis les ondes radio, dont la longueur d'onde, ici, est de l'ordre du mètre. Ces deux derniers domaines, on a coutume de les caractériser plutôt que par leur longueur d'onde, par leur fréquence, qui est aux alentours de 200 GHz pour les micro-ondes et de la dizaine à la centaine de MHz pour les ondes de radio. Une méthode d'étude de l'interaction des ondes électromagnétiques avec la matière, c'est de construire, de tracer le spectre d'absorption. Le principe est simple, il faut disposer d'une source de radiation électromagnétique qui produit une onde de longueur d'onde bien définie et ajustable par l'expérimentateur, qui peut faire varier à sa guise. Cette onde est envoyée sur l'échantillon de matière et une détection convenable permet de constater si l'onde a été absorbée et dans quelle mesure elle a été absorbée. Dans ce cas-là, le spectre d'absorption se présente généralement en portant en abscisse une grandeur qui est caractéristique, qui est proportionnelle à l'absorption, caractéristique de l'absorption, en ordonnée l'absorption, et en abscisse, la longueur d'onde. Donc l'existence ici d'un pic ou d'une bande d'absorption signifie que l'onde de longueur ici en abscisse est absorbée. Lorsqu'il y a absorption d'une onde électromagnétique, il y a transfert d'énergie de l'onde à la molécule. Comme nous sommes dans le domaine atomique, le domaine de la microphysique, ces quantités d'énergie échangées ne sont pas quelconques, elles sont quantifiées. C'est-à-dire que les quantités delta E d'énergie échangée ne peuvent prendre que certaines valeurs bien définies, ici, qui sont égales à H nu, où nu est la fréquence de l'onde électromagnétique et H la constante de Planck. Donc, si on regarde le premier domaine dont je vous ai parlé, le domaine UV visible, je vais complètement pifométrique essayer de tracer, parce que les lumières ne passent pas très bien, le spectre d'absorption dans le domaine visible de la molécule qui imprègne ce transparent jaune, ce colorant jaune-orangé. Donc pour ça, j'ai disposé des filtres qui sélectionnent plus ou moins grossièrement les diverses longueurs d'onde de la lumière visible, donc du violet à 400 nanomètres jusqu'au rouge à 800 nanomètres, et je vais regarder simplement comment cette lumière est absorbée par mon colorant jaune. Donc, vous voyez qu'ici, il y a pas mal de lumière qui passe, bon, on verra par rapport au reste. Ici, il y en a un petit peu moins. Alors, je vais mettre un point de faible absorption par là. Ici, un petit peu plus faible. C'est largement pifométrique. Alors, vous voyez que le vert, lui, est assez absorbé, c'est presque noir, il ne sort pas grand-chose. Donc je vais placer un point correspondant à une absorption plus élevée. Le bleu est à peu près autant absorbé, peut-être un petit peu moins, mais enfin, quelque chose comme ça. Et puis, le violet, il est très absorbé. Le problème, c'est que la projection, on ne voit rien du tout. Si vous étiez au-dessus, ça se remarquerait mieux. De toute façon, vous me faites confiance. On va, en réunissant ces points, on va trouver une courbe qui est la courbe d'absorption de ce colorant violet. Bon, qui nous montre ce qu'on aurait pu trouver tout de suite, que ce colorant orange laisse passer la lumière orange, et pas les autres. On a dit que l'absorption s'accompagnait d'un échange d'énergie, d'un gain d'énergie, d'un transfert d'énergie de la radiation électromagnétique à la molécule. Alors, à quoi est utilisée cette énergie dans le domaine que nous étudions pour le moment, c'est-à-dire le domaine UV visible? Eh bien, cette énergie sert à augmenter l'énergie électronique, d'où le nom qu'on donne aussi à cette spectroscopie, spectroscopie électronique. Là, j'ai pris l'exemple de la molécule d'ozone. Au cours de l'absorption de la molécule d'ozone dans le domaine UV, eh bien, il y a passage d'un électron qui se trouve initialement à ce niveau d'énergie qui correspond à un certain volume de localisation dans ce qu'on appelle une orbitale. Cet électron passe à un niveau d'énergie supérieur où il occupe une autre orbitale. L'ordre de grandeur de ces énergies est de l'ordre de grandeur des énergies de liaison. C'est ce qui explique le caractère nocif des UV qui sont capables de dégrader des molécules, et en particulier donc des molécules biologiques. Alors voici enregistré de façon un peu plus rigoureuse le spectre d'absorption de l'ozone. Il s'agit de son principal domaine d'absorption. Et vous voyez que l'ozone absorbe la lumière ultraviolette essentiellement entre 300 et 200 nanomètres, donc ce qui explique le caractère protecteur de la couche d'ozone qui arrête ses rayons. Ce genre donc de spectre dans le domaine UV visible peut suffire à l'identification de certaines molécules, assez simple, mais vous voyez quand même que la quantité d'informations n'est pas suffisante pour pouvoir caractériser et décrire une molécule assez compliquée. Donc on va passer au deuxième domaine de radiation électromagnétique, qui est le domaine de l'infrarouge. Et ce domaine de l'infrarouge concerne les énergies de vibration des molécules. Je vous ai donné tout à l'heure la molécule d'ozone, sa structure, et donc elle a une structure comme ça en V, avec des paramètres géométriques qu'on peut déterminer avec énormément de précision, longueur et angle. Mais en réalité, si on avait l'occasion de voir cette molécule, elle apparaîtrait comme animée de mouvements parfaitement chaotiques, de déformations. Mouvements parfaitement chaotiques, mais que l'on peut décomposer en, dans le cas de la molécule d'ozone, trois mouvements de déformation, chacun de ces mouvements se faisant à une fréquence bien définie. Dans le premier de ces mouvements, une liaison OO s'allonge tandis que l'autre liaison se raccourcit, et puis inversement, donc ça correspond à cette déformation de la molécule. Dans l'autre mode de déformation, les deux liaisons se raccourcissent et s'allongent simultanément, et dans le dernier mode de déformation, c'est au contraire essentiellement l'angle de la molécule qui subit des variations périodiques. Eh bien, si une molécule telle que l'ozone reçoit une radiation électromagnétique de même fréquence, ici nu 3, que l'une des fréquences de vibration, elle peut absorber cette onde électromagnétique. Donc, elle va absorber une quantité d'énergie delta E égale H nu 3, et cette énergie va être transformée en énergie mécanique en augmentant l'amplitude de son mouvement. Ça va pas si les atomes ne vont pas jusqu'à se toucher. Alors, pour l'ozone, il n'y a que trois fréquences de vibration, mais le nombre de fréquences augmente avec le nombre d'atomes de la molécule. Et pour des molécules complexes, il devient impossible ou très difficile d'attribuer exactement à chaque fréquence un mode de déformation. Néanmoins, certains couples d'atomes, liaisons, ou certains groupes d'atomes conservent des fréquences de vibration très caractéristiques, même s'ils sont inclus dans une molécule complexe. Voilà par exemple le spectre de vibration de l'acétate d'éthyl. Alors ici, l'absorption augmente de haut en bas, et au vu de ce spectre, un étudiant de licence, même mauvais, identifiera tout de suite en bleu une vibration de liaison CH, en rouge une vibration d'une double liaison CO. S'il est un peu meilleur, il dira que, vu la position, il doit s'agir d'un ester, c'est-à-dire d'un groupement COO, qu'il pourra confirmer par la présence de la vibration d'une simple liaison ici en violet, et il repérera également la présence d'un groupement CH3, d'un groupe méthyle, par cette vibration de déformation ici en vert. Alors, s'il est également capable d'identifier toutes les bandes qui sont là, bien, il est meilleur que moi. Mais parce que cette région est complexe et donc difficile à exploiter de façon absolument rigoureuse. Néanmoins, on peut tirer parti de cette complexité même qui constitue pour chaque molécule une espèce d'empreinte digitale. À savoir que si deux molécules ont des spectres infrarouges qui coïncident exactement dans cette région, eh bien on est certain qu'il s'agit de la même molécule. Alors je vais vous le montrer à contrario en comparant ce spectre à celui d'une molécule qui lui ressemble beaucoup, donc qui est isomère, qui a une grande parenté chimique, qui ne diffère de la précédente que par le déplacement du groupement OCO ici, entre cette liaison-là. Eh bien, on peut constater que ces deux spectres, deux molécules pourtant voisines, ne coïncident pas du tout, enfin sont très différents dans le domaine des empreintes digitales. Donc, il est facile de prouver que ça n'est pas la même molécule. J'ai fait allusion tout à l'heure aux molécules de l'espace, donc je vais les évoquer maintenant, car on peut les détecter en utilisant en particulier leurs vibrations dans le domaine infrarouge. Mais il s'agit plus fréquemment non pas de spectre d'absorption, mais de spectre d'émission. En effet, le phénomène que je vous ai décrit d'absorption peut être réversible, c'est-à-dire qu'une molécule qui possède une grande énergie mécanique peut céder une partie de cette énergie mécanique sous la forme d'une radiation électromagnétique. Il y a donc cette fois émission d'une radiation de la même fréquence que celle qu'elle aurait pu absorber pour passer dans l'autre sens. Alors voici le spectre d'émission dans le domaine infrarouge de l'atmosphère de la planète Titan. Titan est un satellite de Saturne, donc cette émission, vous voyez, est complexe et est constituée d'un grand nombre de raies, mais un certain nombre ont été identifiés, et vous voyez que donc on peut montrer que l'atmosphère de Titan contient par exemple de l'éthane, du méthane, de dioxyde de carbone, de l'acide cyanhydrique, ainsi qu'un assez grand nombre de molécules plus complexes qu'on arrive à identifier de cette façon-là. L'atmosphère de Titan suscite un certain intérêt parce qu'elle est supposée assez semblable à l'atmosphère terrestre primitive avant l'apparition d'oxygène sous l'effet de la fonction chlorophyllienne. Le domaine suivant de radiation électromagnétique, c'est le domaine des micro-ondes qui correspond à l'énergie de rotation des molécules. Alors ce domaine est peu utilisé dans la chimie terrestre, en tout cas en routine, mais il est précieux pour l'identification de molécules de l'espace. Alors, en effet, les molécules, en dehors de leur vibration, eh bien, ont des mouvements de rotation dans tous les sens possibles. Ces rotations, ce mouvement de rotation quelconque, peut toujours être décomposé en trois rotations, autour de trois axes, et à chacune de ces rotations est associée une fréquence caractéristique, donc nu1, nu2 et nu3. Et comme précédemment, une molécule en rotation peut absorber une onde électromagnétique de la fréquence correspondante nu1 et transformer cette énergie delta E égale H nu1 en énergie mécanique en augmentant la vitesse de sa rotation. Ce processus est réversible, c'est-à-dire que l'énergie mécanique peut également diminuer et en émettant une onde électromagnétique. Donc, on peut enregistrer les ondes électromagnétiques émises dans ce domaine des micro-ondes. Et voici les ondes émises par s'il s'agit d'espace interstellaire, d'une région qu'on appelle le nuage moléculaire d'Orion, qui est censé être du vide, mais il y a quand même pas mal de choses dans ce vide. Donc on ne voit absolument pas ici, vous ne pouvez pas lire, mais chaque pic donc correspond à l'émission d'une fréquence micro-onde caractéristique de la rotation d'une molécule. Vous voyez que ces fréquences sont aux alentours de 200 GHz. Alors, je peux vous dire qu'on a ici, par exemple, du méthanal, qu'on a ici du dioxyde de soufre, SO2, ici, on a ici du méthanol, etc., un grand nombre de molécules. Mais vous voyez aussi qu'il y a un assez grand nombre de pics qui ne sont pas identifiés. Certains, probablement, ne sont pas identifiés parce qu'ils correspondent à des molécules qui n'existent pas sur Terre, qui peut-être même sont impossibles à préparer sur Terre. Dans ce cas-là, une voie intéressante peut être de recourir à la chimie théorique. En effet, la chimie théorique, en particulier la chimie quantique, est capable de calculer les propriétés, et en particulier les propriétés spectroscopiques, de n'importe quelle molécule. Donc on peut, disons, calculer l'empreinte de la molécule qui nous manque ici au plan expérimental. Alors, je vais aborder maintenant la troisième méthode faisant intervenir des ondes électromagnétiques, qui est la résonance magnétique nucléaire. Il s'agit de la méthode probablement qui a connu les développements les plus impressionnants ces dernières années et qui donne les résultats les plus variés et les plus riches. Résonance magnétique nucléaire, eh bien, dans le nom de cette méthode, il y a magnétique et nucléaire. Il s'agit donc d'une propriété magnétique des noyaux atomiques. Certains noyaux atomiques, et en particulier le noyau d'hydrogène, le proton, possèdent une grandeur physique qu'on appelle le spin, et ce spin leur confère ce qu'on appelle un moment magnétique qui fait que ces noyaux se comportent comme des minuscules petits aimants ou comme des aiguilles aimantées. Alors je vais essayer d'utiliser cette analogie avec l'aiguille aimantée pour vous expliquer le phénomène de résonance magnétique nucléaire. Alors, vous pouvez couper ici. Si on place une aiguille aimantée dans un champ magnétique, par exemple une aiguille dans le champ magnétique terrestre, elle s'oriente dans le sens du champ. Si on lui communique un petit peu d'énergie en lui donnant une pichenette, eh bien, elle va prendre un mouvement oscillatoire, un mouvement oscillant, à une fréquence bien déterminée. Cette fréquence dépend de la magnétisation de l'aiguille, mais elle dépend aussi de la valeur du champ magnétique. Si j'augmente le champ magnétique avec un aimant, vous voyez que la fréquence d'oscillation augmente. Bien, l'énergie qu'on peut apporter à l'aiguille aimantée en lui donnant une pichenette peut également être apportée avec une onde électromagnétique. Alors, je vais essayer de vous bricoler une onde électromagnétique à l'aide de cet appareil que connaissent tous ceux qui ont fait de la chimie au moins une fois dans leur vie, qui est un agitateur magnétique. Donc, c'est un barreau aimanté qui tourne à une certaine vitesse. Et étant barreau aimanté, il crée un champ magnétique variable, donc une onde électromagnétique. Alors ici, pour le moment, il ne se passe pas grand-chose. Si j'essaie d'ajuster la fréquence de rotation du barreau à la fréquence propre d'oscillation de l'aiguille, je vais voir apparaître, si j'ai un peu de chance, c'est-à-dire si j'arrive vraiment à ajuster les fréquences, un mouvement de résonance lorsqu'il y a résonance, il y a transfert d'une partie de l'énergie de l'onde électromagnétique à l'aiguille, donc qui se met à tourner de façon continue. Si vous voulez me... Oui, merci. Donc, il en va à peu près de même pour les noyaux d'atomes. Un noyau d'atomes qui possède un spin, donc qui possède un moment magnétique, eh bien, placé dans un champ magnétique, il prend un mouvement de précession qui se fait à une fréquence caractéristique qui dépend du noyau lui-même et qui dépend aussi de l'intensité du champ magnétique. Cette fréquence est proportionnelle au champ magnétique, comme celle de mon aiguille, nu égale gamma B à une constante près. Eh bien, si on envoie une onde électromagnétique correspondant à la même fréquence de rotation, eh bien, cette onde peut être absorbée et il y a augmentation de l'énergie magnétique potentielle de ce noyau. Alors, on n'utilise pas, dans ce cas, des champs magnétiques, le champ magnétique terrestre, mais on utilise des champs beaucoup plus intenses. Par exemple, là, dans les premiers appareils utilisés, on avait des champs magnétiques de 1,41 Tesla, et avec ces champs magnétiques, la résonance du proton était obtenue à 60 MHz. En quoi ce phénomène intéresse-t-il les chimistes ? Eh bien, pour deux raisons. Pour une multitude de raisons. D'abord, à cause du phénomène de déplacement chimique. Lorsque un noyau est placé dans une molécule, il est évidemment soumis au champ magnétique qu'on lui impose avec l'appareil, mais les électrons de la molécule qui sont par là, ça c'est supposé représenter une molécule. Tous les électrons de la molécule réagissent au champ qu'on leur impose en créant des champs parasitaires. Si les deux noyaux, ici, ne sont pas placés exactement dans le même environnement moléculaire, ils ne seront pas soumis exactement au même champ parasitaire. En d'autres termes, si celui-ci est soumis à un champ B, celui-ci sera par exemple soumis à un champ B plus delta B. N'étant pas soumis exactement au même champ, ils ne résonnent pas non plus exactement à la même fréquence. Cette différence delta B, c'est ce qu'on appelle le déplacement chimique, et comme sa valeur relative est faible, de l'ordre de quelques millionièmes du champ total B, on compte le déplacement chimique en ppm, partie par million. Donc, en principe, on pourra, je ne vais pas le refaire, hein, mais on pourra enregistrer un spectre de RMN avec une onde électromagnétique de fréquence variable. On fera la résonance du premier spin, et puis ensuite on changera la fréquence pour avoir la résonance du deuxième spin, etc. Du moins, était-ce comme ça que fonctionnaient les appareils anciens, par la méthode dite par onde continue. Alors, voilà le résultat. Le spectre de RMN de protons de la molécule d'acétate d'éthyle. Bon, là encore, on ne voit pas les couleurs, mais on voit qu'il y a trois groupes de protons dans trois environnements différents, donc on va obtenir trois signaux. Le signal ici de ces protons en violet se trouve ici. Et de la même façon, un étudiant médiocre de licence saura que à 2 ppm, eh bien, on doit avoir quelque chose qui est un CH3 à côté d'un CO. Mais on va aussi apparaître un autre phénomène ici, c'est que les deux autres signaux ici ne sont pas simples. Ils ont une forme bien caractéristique, ils sont formés de plusieurs composantes. Mais ce renseignement est aussi précieux pour les chimistes car il permet de savoir que ces deux groupes de protons sont voisins dans la molécule. Alors, on peut montrer par la théorie, et l'expérience le montre aussi, que si vous avez un groupe ici de protons, ce CH3, qui est voisin d'un groupe de deux protons, il va donner un signal composé de 2 plus 1 pi, c'est-à-dire un triplet. Inversement, le CH2 ici, qui a 3 voisins, va donner 3 plus 1 pi, un quadruplet. Et l'ensemble de ces deux signaux est donc très caractéristique d'un groupement éthyle CH2-CH3. Alors, donc, le spectre que je vous ai montré, c'était l'état de l'ARMN dans les années 60, qui était limité pratiquement à l'étude de la ARMN du proton et avec à la fréquence de résonance de 60 MHz. Depuis, l'ARMN a fait des progrès considérables dans deux directions. D'abord, dans la recherche de champs de plus en plus intenses. Des champs de plus en plus intenses et donc des fréquences de résonance également de plus en plus grandes, puisque la fréquence est proportionnelle au champ, on l'a vu. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, il suffit de regarder. Voilà le spectre d'une molécule qui n'est pas très compliquée, qui est le menthol. Et vous voyez que dans le spectre à 60 MHz, ben, on ne voit pas grand-chose. Cette région surlignée en violet est pratiquement inexploitable. Si on passe à un appareil à champ environ 10 fois plus grand, environ, avec à la fréquence de 500 MHz, eh bien cette région en violet ici devient ceci. Donc à ce moment-là, tous les protons du cycle donnent chacun un signal bien défini, bien séparé des autres, et avec, en exploitant les couplages qu'il a avec ses voisins, il est assez aisé de les attribuer, ce qu'on pourrait bien voir si les couleurs passaient bien, mais enfin, bon, cette attribution en elle-même n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors, actuellement, donc, on commercialise des appareils dans lesquels le proton résonne à 800 MHz. Ça correspond à des champs magnétiques de presque 20 Tesla, c'est-à-dire 1 million de fois le champ magnétique terrestre. Donc ça pose de très gros problèmes techniques, d'abord pour fabriquer des champs aussi intenses, d'autant plus que ces champs doivent être très stables dans le temps et autant que possible très homogènes dans la région occupée par l'échantillon, qui est de l'ordre d'un bout de crayon, mais c'est quand même très difficile. Pour obtenir des champs aussi intenses, il est nécessaire d'utiliser des bobines supraconductrices, donc qui fonctionnent à la température de l'hélium liquide, à moins de 269 degrés. Donc vous voyez que c'est quand même des appareils complexes et très difficiles à régler et fort chers. Une autre voie de progrès de l'ARMN a été le développement de ce qu'on appelle l'ARMN par impulsion. Au lieu de faire tout à l'heure une onde continue puis de faire résonner un spin puis l'autre, je vais ici donner simplement quelques petits tours. On voit que les spins prennent un mouvement oscillant qui s'amortit. J'ai donné simplement une pichenette, une sorte de pichenette magnétique, et tous les spins se sont mis à osciller, chacun à sa fréquence propre. Si on peut enregistrer le signal émis par ces noyaux, eh bien, on obtient les mêmes informations qu'on avait dans le spectre précédent, c'est-à-dire les fréquences caractéristiques de chacun de ces spins. Évidemment, ce signal est complexe, parce qu'on a l'ensemble de tous les spins de la molécule, et il doit être traité par informatique. Mais enfin, c'est parfaitement réalisable depuis les années 70, donc depuis longtemps. Quel est l'intérêt de cette technique? Eh bien, le premier intérêt, c'est que l'acquisition du signal va se faire dans une durée environ 100 fois plus grande que dans la méthode classique où il fallait faire résonner les spins les uns après les autres. L'intérêt, entre autres, c'est que ça a permis d'aborder la RMN en particulier du carbone, ce qui évidemment pour la chimie organique est quelque chose d'essentiel. Puisque la chimie organique, c'est la chimie du carbone. Quel est le problème du carbone ? Le carbone, c'est que 99% du carbone naturel est constitué de l'isotope 12 qui n'a pas de spin. Donc, il n'a pas de moment magnétique, donc il n'a pas de RMN. Il reste 1% de carbone 13 qui a un spin, mais dans les conditions anciennes, on obtenait un signal beaucoup trop faible qu'on ne pouvait pratiquement pas exploiter. La RMN par impulsion permet de refaire très rapidement des impulsions et d'accumuler dans une mémoire d'ordinateur les signaux émis, donc d'amplifier ce signal avant de le traiter pour reconstituer le spectre. Alors voici le spectre de RMN du carbone 13, toujours de la molécule d'acétate d'éthyle, et on voit qu'il y a, comme pour les protons, on a quatre sites différents de carbone, donc on a quatre déplacements chimiques différents, et vous voyez que la gamme de déplacements chimiques est sensiblement plus grande que pour le proton, puisqu'elle va jusqu'à 200 ppm et quelque chose. En dehors donc de l'ARMN, par exemple, du carbone 13, l'utilisation d'impulsion a permis le développement de ce qu'on appelle les spectres de RMN à deux dimensions. C'est une théorie qui est très compliquée, qui repose sur l'utilisation d'un grand nombre d'impulsions, avec des durées bien définies, séparées par des temps bien définis, etc. etc. Bon, la théorie est compliquée, mais le résultat est relativement simple. Ça permet d'établir des relations de connexion entre certains spins de la molécule. Par exemple, dans la RMN à deux dimensions, les spectres qu'on appelle COSY, pour Correlated Spectroscopy, ça permet d'identifier les couples de protons qui présentent le phénomène qu'on a vu tout à l'heure de couplage. En pratique, ça signifie que les deux protons donc ainsi repérés sont proches, sont voisins, et en pratique séparés par un nombre de liaisons qui est inférieur à 3 ou éventuellement égal à 4. Donc ça permet d'établir des proximités en termes de nombre de liaisons pour aller de l'un à l'autre. Alors voici comment se présente un spectre COSY pour une molécule, proton-proton. Ben voilà ici le spectre de RMN d'une partie d'une molécule. Bon, il n'y a pas tous les signaux, mais vous voyez qu'il y a une partie de la molécule. Donc en abscisse là-haut, on a le spectre classique, le spectre RMN à une dimension. En ordonnée, on a la même chose. On a le spectre classique à une dimension. Et puis au milieu, on a des signaux qui sont vus du haut, donc représentés par des courbes de niveau. Donc ici, on a des pics vus du haut. Sur la diagonale ici en violet, on retrouve le spectre classique à une dimension. Vous voyez que c'est la projection de tous les signaux qui sont là. Mais on constate aussi la présence de signaux en dehors de cette diagonale. Eh bien, la présence d'un signal ici va signifier que les protons qu'on trouve ici, qui donnent ce signal-là, sont couplés avec les protons qui donnent ce signal-là. Donc dans le spectre, on peut dire que ceux-ci sont couplés entre eux. De même, la tache bleue signifie que ces deux, les protons correspondant à ces deux signaux sont couplés entre eux. Donc, encore une fois, on ne voit pas les couleurs. Enfin, ici, vous avez les protons rouges qui sont couplés ici, les deux protons rouges. Ici, l'ensemble des protons bleus qui sont couplés entre eux. Donc, ceci est précieux si on a une molécule très importante dans laquelle il n'est pas forcément évident de savoir quels sont les signaux de protons qui sont proches les uns des autres. Un autre exemple de spectre à deux dimensions, c'est les spectres Noesi. Ces spectres Noesi utilisent un autre phénomène qui est ce qu'on appelle l'effet Overhauser nucléaire. Ces spectres Noesi permettent d'établir aussi une relation de connexion, mais cette fois, ils établissent la simple proximité dans l'espace de deux spins. Donc, ils établissent qu'ils sont à une faible distance, indépendamment du nombre de liaisons qu'il faut traverser pour aller de l'un à l'autre. Alors, c'est ce type de spectroscopie Noesi a une application extrêmement importante en biochimie. Une molécule, quand elle est un peu compliquée, comme celle-là, a une certaine plasticité. Elle peut changer de forme. Elle peut changer de forme parce que, autour de liaisons simples, il y a des rotations qui sont faciles, c'est-à-dire qui demandent peu d'énergie. Donc chacune de ces formes s'appelle une conformation. Ça, c'est une conformation. Ça, c'est une autre conformation. Eh bien, la notion de conformation est extrêmement importante en biochimie. En effet, des molécules biochimiques, comme par exemple les protéines, ont une conformation bien définie et perdent leurs propriétés biologiques si elles changent de conformation. Vous savez que, par exemple, c'est l'origine de la maladie de la vache folle, c'est un simple changement de conformation d'une protéine sous l'effet du prion, sans que la nature chimique de la protéine ait été véritablement altérée. Donc, vous voyez que ce n'est pas un problème anodin, et qu'il est très important de pouvoir connaître la forme exacte de ces molécules. Donc, les spectres Noesi, comme je vous l'ai dit, permettent d'établir que des noyaux, par exemple des protons, sont proches les uns des autres. Alors voilà par exemple le spectre Noesi partiel d'une protéine présente dans le lait de vache, l'angiogénine bovine. Bon, vous voyez que vous avez un nombre de taches impressionnant. Chacune de ces taches, par exemple, il y en a une que j'ai essayé de mettre en rouge, mais on ne voit pas que c'est rouge. Cette tache signifie que le proton qui a un déplacement chimique indiqué en ordonnée est proche d'un proton qui a un déplacement chimique indiqué en abscisse. Et plus la tache est grosse, plus ils sont proches. Bien entendu, il est absolument impossible d'interpréter un truc pareil à la main. Il faudrait y passer des millénaires ou des... je ne sais pas. Donc on a recours à des méthodes informatiques, et en particulier donc à ce qu'on appelle l'imagerie moléculaire, la modélisation moléculaire sous contrainte spectroscopique. Alors c'est un programme informatique qui est constitué en gros de deux parties. Il y a d'abord une partie qui est de la chimie théorique, un programme de mécanique moléculaire. Dans ce programme, on intègre toutes les variations d'énergie liées à une variation géométrique, liée à une déformation de la molécule. Par exemple, si on étire ces deux atomes, là, si on les éloigne, ça correspond à une certaine variation d'énergie. Si on modifie un angle de valence, c'est une autre variation d'énergie. Donc, tous ces paramètres sont définis empiriquement et donc introduits dans le programme. Ce programme est donc capable de calculer l'énergie de n'importe quelle conformation, mais comme il y en a énormément, il y a encore beaucoup de conformations qui ont presque la même énergie. Donc, on intègre dans ce programme les données des spectres Noesi, ici, donc ces données qui vont vous dire que, par exemple, le proton X et le proton Y, eh bien, ils sont proches l'un de l'autre, ou au contraire, ils ne sont pas proches. Le résultat, c'est une image de la molécule. Vous voyez que c'est une molécule qui comporte des centaines et des centaines d'atomes. Je n'ai pas regardé exactement la formule, mais enfin, c'est de l'ordre de centaines d'atomes. Et vous avez donc un certain nombre de tracés. Ces tracés traduisent l'incertitude du résultat. Donc, on voit que dans les parties centrales, cette incertitude est faible. Tous les tracés sont pratiquement superposés, alors que l'incertitude est plus grande dans les extrémités de chaîne. Bien, je vais évoquer donc maintenant la dernière méthode spectroscopique, qui est la spectrométrie de masse. La spectrométrie de masse donc, est fondée sur un principe tout à fait différent. Il n'y a plus d'ondes électromagnétiques, et le principe de la spectrométrie de masse, à la base, déjà, c'est d'ioniser la molécule. La méthode la plus ancienne, la plus simple, consiste à bombarder la molécule avec des électrons d'énergie assez importante. Donc, au cours du bombardement, un électron de la molécule est arraché, c'est-à-dire qu'il y a deux électrons qui partent, et il reste une molécule qui est chargée positivement, avec de l'énergie en rab. Cette molécule peut rester telle qu'elle, donc elle reste chargée, et elle va donner ce qu'on appelle un ion moléculaire, mais avec l'énergie reçue, elle peut aussi se couper, suivant divers modes, donc elle peut se rompre à divers endroits. Donc pour donner un fragment qui va être chargé, il y a un fragment qui va emporter la charge, donc divers fragments et des fragments neutres. Et la spectrométrie de masse consiste à déterminer la masse de tous les fragments chargés. Les fragments neutres ne sont pas détectés. Donc on continue avec notre molécule exemple, l'acétate d'éthyle. Et voilà le spectre de masse de l'acétate d'éthyle. On constate donc que ce spectre est constitué de la façon suivante. En abscisse, on a le nombre de masses. Donc on remarque par exemple le nombre de masses 88 qui correspond à la molécule entière non coupée, donc l'ion moléculaire. Et puis des ions correspondant à diverses ruptures, par exemple l'ion 43 correspond à la coupure en rouge et donc qui correspond au fragment CO-CH3+, etc., d'autres fragments correspondant à d'autres ruptures. En ordonnée, on porte l'abondance relative de ces ions, donc ceci prouve que la coupure la plus facile dans cette molécule, c'est cette coupure-là qui donne l'ion 43. Alors, il est facile d'identifier simplement par leur nombre de masses certains fragments. Par exemple, CH3, ça peut guère être autre chose que... Enfin, 15, ça peut guère être autre chose que CH3 en chimie organique. Mais évidemment, si cette molécule m'avait été inconnue, je n'aurais pas su que la molécule de nombre de masses 88 avait comme formule brute C4H8O2. Il y a bien d'autres possibilités pour avoir un nombre de masses 88. Bien, la spectrométrie de masse permet de répondre à cette question par divers procédés, dont un qui est la spectrométrie de masse à haute résolution. Ceci consiste à déterminer la masse exacte des ions. En effet, les atomes ont une masse qui n'est pas un nombre entier, sauf le carbone, qui, par définition, par convention, à la masse exacte 12,000. L'hydrogène n'a pas tout à fait la masse 1, l'oxygène n'a pas tout à fait la masse 16, etc. Ce qui fait que parmi toutes ces formules brutes répondant au nombre de masses 88, si on peut déterminer leur masse exacte avec 5 décimales, eh bien, il est facile de distinguer la formule brute C4H8O2 des autres formules brutes ici présentes. Mais on n'est souvent pas obligé de faire ce travail, car, comme je vous l'ai dit au début, il existe des procédures automatiques d'identification des molécules. Donc je vais vous en présenter une qui fait intervenir la spectrométrie de masse et qui est la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. Je n'ai pas fait allusion jusqu'à présent aux méthodes de séparation des constituants d'un mélange. Il est bien évident que c'est un problème essentiel, mais on n'a pas le temps de parler de tout en détail. C'est évident que c'est un problème essentiel parce qu'il est beaucoup plus aisé de déterminer, d'identifier une molécule pure plutôt que mélanger à plein d'autres choses. Alors, je vous présente simplement une méthode de séparation, qui est l'une des plus efficaces qu'on connaisse actuellement, qui est la chromatographie en phase gazeuse. Alors, le principe est le suivant. On injecte à l'entrée d'un tube un mélange, le mélange qu'on désire analyser, vaporisé. Alors là, il y a des molécules que j'ai qui sont bleues, il y a des molécules qui sont rouges. Ce tube, ici, est en fait un tube capillaire en verre qui a à peu près un dixième de millimètre de diamètre et plusieurs mètres de longueur, il est enroulé. Et l'intérieur de ce tube est tapissé d'une substance convenablement choisie qu'on appelle la phase stationnaire, et il est parcouru par un courant d'un gaz qui est généralement de l'hélium. Donc les molécules qu'on envoie là-dedans, elles sont soumises à deux forces, à deux tendances antagonistes. D'une part, elles tendent à être entraînées par le courant gazeux, mais d'autre part, elles créent des interactions avec la phase stationnaire, elles s'accrochent aux parois, si vous préférez, et si on a de la chance, ou si on a bien choisi la phase stationnaire, eh bien, il y en a qui s'accrochent davantage que les autres. Autrement dit, certaines molécules sont entraînées plus rapidement que les autres. Ici, les molécules bleues sont entraînées plus rapidement que les autres, ce qui fait qu'elles vont sortir plus vite du tube. À la sortie, donc, on détecte et on va voir un signal qui indique l'apparition des molécules bleues au bout d'un temps T1, qu'on appelle le temps de rétention, plus rapidement que les molécules rouges qui vont sortir au bout d'un temps T2 supérieur. Ces temps de rétention sont en eux-mêmes des caractéristiques et ils peuvent suffire à l'identification d'un mélange, à condition évidemment que ce mélange soit assez familier, par exemple les constituants du pétrole ou des choses comme ça. Mais on peut avoir affaire à un mélange complètement inconnu. Par exemple, voilà le chromatogramme de l'essence de lavande. Donc, chacun de ces pics ici correspond à un constituant de l'essence de lavande et il est identifié ici par son temps de rétention exprimé en minutes et secondes. Bien, a priori, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans l'essence de lavande, mais il existe une procédure automatique d'identification de ces molécules, donc qui est le couplage de la de la chromatographie ici en phase gazeuse avec un appareil de spectrométrie de masse. C'est-à-dire qu'on peut envoyer, quand un produit sort, on l'envoie directement sur le spectro de masse qui enregistre son spectre. Alors, par exemple, le signal en rouge, voilà son spectre. Il est à l'envers. Eh bien, ce spectre constitue aussi une empreinte digitale de la molécule. Un système informatique va rechercher dans une base de données qui peut comporter des dizaines de milliers de références s'il existe un spectre semblable à celui-là et va faire deux propositions. Première proposition, le camphre. Deuxième proposition, le camphre. Donc, il y a de fortes chances pour que ce soit du camphre. D'autant plus qu'il y a un indice de fiabilité ici qui est indiqué, c'est-à-dire l'indice de ressemblance des deux spectres, donc qui est de 988, c'est-à-dire 98,8%. On voit ainsi que on peut donc identifier dans cette essence de lavande un certain nombre de constituants, donc de l'eucalyptol, du camphre, etc., du bornéol, etc., etc. Bien, eh bien, je vais maintenant essayer d'apporter quelques petites conclusions. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que, du moins au niveau du laboratoire, de la recherche, les méthodes d'identification des molécules ont complètement abandonné les méthodes chimiques et sont uniquement des méthodes physiques, des méthodes spectroscopiques. Bon, donc, vous avez pu avoir un aperçu de ce que chacune de ces méthodes peut apporter comme renseignement. Elles ont d'autres avantages dont je n'ai pas parlé, c'est que d'une part, pour la plupart, elles ne détruisent pas la molécule à étudier. On peut la récupérer après avoir enregistré le spectre. Par ailleurs, elles nécessitent une faible quantité de matière, pratiquement de l'ordre du milligramme pour la RMN, pour l'UV, pour l'infrarouge, mais beaucoup moins pour la spectro de masse. Et dans la technique de chromatographie couplée à la masse, on peut descendre jusqu'au nanogramme, donc des quantités infimes. Vous avez pu voir que si on essaie de mettre en perspective les spectroscopies, les diverses méthodes, l'infrarouge et l'ultraviolet donnent peut-être des renseignements moins fins et moins riches, mais elles ont l'avantage de ne pas nécessiter la présence de la molécule dans l'appareil, ce qui nous permet donc d'identifier les molécules de l'espace. À l'inverse de la RMN et de la spectrométrie de masse, où il faut vraiment mettre la molécule dans la machine. La RMN et la masse donc, sont les deux méthodes qui ont connu les développements les plus importants au cours de ces dernières années. Actuellement, elles sont capables d'étudier de très grosses molécules biologiques. Et par ailleurs, vous savez que la RMN a des applications qui débordent la chimie, en particulier en médecine, sous le nom de IRM, imagerie par résonance magnétique, vocable dans lequel on a pudiquement évacué le mot de nucléaire, qui aurait peut-être été propre à faire peur aux patients. Je vous remercie.
Ah oui,
bonjour. C'est pour l'analyse des formes des macromolécules comme les protéines. Est-ce que la RMN apporte plus de renseignements que, par exemple, la cristallographie, enfin la diffraction rayon X ou...
Non. Alors, en principe, bon, je n'ai pas parlé de la cristallographie. Je crois qu'il y a eu une conférence sur l'analyse de la matière à l'aide des rayons X. Alors, la diffraction des rayons X, en principe, c'est une méthode absolue, c'est-à-dire qu'on peut, déterminer la position de tous les atomes, enfin, presque tous les atomes. Simplement, ça implique que la substance soit cristallisée, ce qui n'est pas toujours facile à obtenir. Alors, on a pu identifier des protéines par cristallographie, mais ce n'est pas forcément toujours possible.
C'est pas beaucoup amélioré en chimie, j'ai toujours été nul. Alors, je me pose une question, elle est double. D'abord, par rapport à ce que vous avez dit, est-ce qu'il est possible de faire une chromatographie de l'espace, du vide de l'espace ? Ça m'amène à ma deuxième question, qui c'est, est-ce qu'il vaut mieux pas, pour identifier une molécule, d'abord la localiser ? Merci.
Alors pour la première question, les molécules de l'espace, alors la chromatographie, ça fait partie de la catégorie des appareils où il faut mettre la molécule dedans. Hein ? Alors, donc, si on a une sonde qui est éventuellement capable de ramasser, je ne crois pas que ce soit possible, suffisamment de molécules dans l'espace, parce qu'il n'y a pas beaucoup de molécules dans l'espace. Je vous en ai montré plein, mais en réalité, le vide interstellaire est beaucoup plus vide que le meilleur vide qu'on peut réaliser sur Terre. Hein. Donc, il n'y a pas grand-chose. Donc, je ne crois pas qu'il soit possible d'aller chercher suffisamment de molécules dans l'espace. Les moyens de détection, c'est essentiellement ceux que je vous ai montrés, avec aussi l'émission UV aussi. Si on veut faire une chromatographie, il faut avoir l'échantillon. Donc, on ne peut chercher que les molécules qui sont dedans. Pour les molécules qui sont hors de portée, il y a d'autres techniques. Donc, je vous ai montré pour les molécules de l'espace. Pour les molécules de l'atmosphère, on peut faire des sondes. On peut faire, par exemple, la pollution de l'atmosphère parisienne. Elle est mesurée, entre autres, par un rayon lumineux qui fait 1800 mètres de la Tour Saint-Jacques jusqu'à Air Paris. Et on regarde les molécules qui absorbent, qui sont dans ce rayon lumineux. Donc on peut, comme ça, doser un certain nombre de polluants, comme NO2, comme SO2, et puis le benzène, enfin un certain nombre de polluants comme ça. Donc à ce moment-là, elles sont localisées là où on les cherche.
Une question sur notre gauche.
Pourriez-vous nous donner une idée en termes de complexité de la limite de ce que l'on peut identifier comme ça? Typiquement, une molécule d'ADN, par exemple, c'est beaucoup trop gros pour qu'on puisse avoir toute sa formule chimique de cette façon-là. Donc, disons, en termes de nombre de composants ou de taille, jusqu'où peut-on aller?
Oui, alors, bon, je ne suis pas du tout biochimiste. Hein, alors là, je ne sais pas du tout. Bon, je vous ai montré un exemple où il y a de l'ordre de centaines de... jusqu'aux milliers d'atomes. Alors, en biochimie, je pense qu'on a des méthodes quand même pour... Quand on a une molécule trop grosse, on la découpe en petits morceaux. Et à ce moment-là, on a des morceaux qu'on peut plus ou moins analyser par RMN. Mais très franchement, peut-être qu'une des caractéristiques de l'esprit scientifique, c'est de savoir dire « je ne sais pas ». Bon, je vais essayer de montrer mon esprit scientifique, je ne sais pas.
Une question sur la droite, maintenant.
Bonsoir.
Levez-vous, s'il vous plaît.
Bonsoir. Madame. Pensez-vous que ce qu'on appelle les nez électroniques, qui sont expérimentés, puissent un jour supplanter nos récepteurs sensoriels ? Merci.
Oui. Je ne sais pas. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est une question, en fait, d'un peu de philosophie des sciences, générale. Hein. Franchement, je ne sais pas qui peut répondre à la question. Eh ben, au niveau de la sensibilité, ce sera une question de sensibilité de l'appareillage. Je pense qu'on pourra arriver à un appareillage suffisamment sensible pour supplanter le nez. Le problème du nez, c'est qu'il est sensible à certaines choses et pas à d'autres. Alors, il y a des molécules pour lesquelles il est plus sensible que tous les appareils qu'on a. Hein. Bon, on m'a raconté une anecdote sur à la suite de la pollution par les hydrocarbures de l'Erika. Il y avait eu un rapport sur l'agence de l'alimentation pour définir les moyens qu'on avait pour savoir si un coquillage était pollué ou pas. Et finalement, il s'est avéré que la meilleure méthode, c'était de le sentir. Alors, donc, il y a certaines molécules auxquelles le nez est très sensible. Par exemple, les dérivés soufrés auxquels on est sensible à des quantités incroyablement faibles. Mais pour d'autres, ce n'est pas le cas. Alors, franchement, a priori, il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas avoir des nez électroniques aussi sensibles que le nez humain. Il n'y a pas de raison, a priori. Mais je ne sais pas.
Je voulais vous remercier pour votre exposé parce que j'ai travaillé pendant 30 ans dans la chimie.
Parlez dans le micro.
Les méthodes d'analyse m'ont toujours paru très hermétiques et là, votre exposé a été vraiment un éblouissement pour moi. Je crois que j'ai vraiment compris ce que c'était que la RMN et surtout votre petite expérience. J'ai trouvé ça remarquable. La question que je voulais vous poser, c'est que vous n'avez pas parlé du problème de la sensibilité de ces méthodes. Et par-delà, moi, ce qui me préoccupe sur le plan philosophique, quand on atteint des précisions du ppm ou du ppb, dont on finit par plus savoir ce que ça veut dire, parce qu'en plus, on n'a pas le même ppb en France et aux États-Unis, et si on avait pris un échantillon un mètre plus loin, est-ce qu'on aurait eu le même résultat?
Oui, alors ça, c'est la question se pose si on a un mélange, si on a une molécule pure. Elle sera toujours pure, elle sera toujours semblable à elle-même n'importe où. Donc évidemment, si on prélève un échantillon et qu'on fait un chromatogramme d'un polluant, par exemple, d'une atmosphère polluée, ça va évidemment dépendre de l'endroit où on l'a prélevé. C'est évident. Alors justement, le R-Parif a mis ça en hauteur pour que ce soit moins sensible aux variations qui se produisent quand il y a un camion qui passe ou des choses dans le genre. Certainement.
Une dernière question. Monsieur, levez-vous, s'il vous plaît.
Oui, j'ai deux questions. Enfin, pour le spectre COSY, je n'ai pas très bien compris, parce que vous avez exactement le même spectre en abscisse et en ordonnée.
Oui.
À mon avis, c'est parce que vous avez à la fois la fréquence de résonance et le temps de décroissance de chaque signal, non?
Non, le spectre COSY, il indique un point hors diagonale, ici, indique que le proton de l'abscisse de ce point est couplé au proton qui a l'ordonnée de ce point. Et c'est le même spectre qu'on a ici. Donc, sur un spectre à une dimension, ça signifie donc que celui-ci étant couplé à celui-là, ça signifie que celui-ci, qui est identique à ça, est couplé à celui-là.
Bon, j'essaierai de comprendre un peu mieux. Et autre chose, j'ai lu que toutes les atmosphères planétaires avaient leur température de rayonnement entre 0,2 et 0,4 atmosphères, ce qui correspond à dire que les atmosphères planétaires deviennent opaques à l'infrarouge entre 0,2 et 0,4 atmosphères du fait de l'élargissement des raies. Et donc, cela ne tient pas beaucoup à la composition de chaque atmosphère. L'élargissement des raies se produit-il de chaque côté de la raie?
Dans une atmosphère, c'est quand même un milieu assez dispersé. Enfin, dans les milieux gazeux, par exemple, les élargissements de raies ne sont pas importants, en général, à moins d'avoir des pressions importantes, je ne sais pas. Enfin, apparemment, vous voyez qu'on a l'atmosphère de Titan émet des raies infrarouges assez minces, assez fines.
Patrick Chacun, je vous remercie.
Merci.